Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Franck Ferrand qui n'est pas à mes côtés au studio Coluche d'Europe 1 aujourd'hui puisqu'il poursuit ses pérégrinations pour vous proposer des émissions exceptionnelles. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Ah, nous ne sommes peut-être qu'à quelques encablures du studio de la rue François 1er, mais je vous assure qu'ici nous avons l'impression d'être en Russie. Je suis devant la cathédrale russe de la rue Daru, donc à Paris, tout près de la place des Ternes. Et j'ai sous les yeux ces pyramides de pierre surmontées de flèches, on parle de structure à Chatior en Russie, de cette cathédrale Alexandre Saint-Alexandre Nevski, spectaculaire flèche surmontée, c'est qu'elles sont de style néo-byzantin, on peut même dire byzantino-moscovite, et elles sont surmontées de bulbes dorés, de croix orthodoxes, on se croirait presque à Kolomenskoïe. Vous avez remarqué, Julia, que nous sommes aujourd'hui vendredi 13, mais surtout nous sommes le 13 janvier. Or, le 13 janvier, c'est le jour du Nouvel An russe. Alors, les Russes d'aujourd'hui appellent ça le vieux Nouvel An, car depuis 1918, ils ont adopté pour les affaires civiles le calendrier grégorien, celui qui a été décidé en 1582 par le pape Grégoire XIII. Mais il y a toujours, bien entendu, l'ancien calendrier. Il y a 13 jours de décalage entre ces deux calendriers, ce qui veut dire qu'à Moscou, par exemple, on fête deux fois le Nouvel An, le 1er janvier et le 13. L'Église orthodoxe russe, elle, a conservé ce calendrier julien, du nom de Jules César, qui l'avait imposé très tôt, dès 46 avant notre ère. Et l'on peut dire que c'est aujourd'hui, dans cette cathédrale russe de Paris, c'est le premier jour de l'année. Alors pendant qu'on prépare le saumon, les blinis, le caviar et les flots de vodka, je vous propose de pousser les portes de cette incroyable église russe en plein Paris, une église qui a été construite ici en 1861, qui vient donc de célébrer, et faites le compte, ses 150 ans. Un haut lieu qui a toujours fasciné les Parisiens, je pense à Zola, Cocteau, à Picasso et à Troya, bien sûr. Les deux derniers se sont mariés ici, Picasso en 1918 et Troya en 1939. Tout le quartier de la rue de la Neva, de la rue Pierre-le-Grand, tout ce quartier s'est un peu mis aux couleurs de la Russie. C'est dire si nous avons de bonnes raisons d'être là aujourd'hui. Bonjour Michel Sologoub, vous êtes le secrétaire du Conseil de l'Archevêché. C'est vous qui nous recevez aujourd'hui dans cet endroit tout à fait extraordinaire que les Parisiens connaissent finalement relativement mal. Et c'est un lieu qui a été très fêté, si je puis dire, avant la guerre et qui aujourd'hui est un peu moins connu.
Oui, bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à la cathédrale. C'est vrai que la cathédrale a été un lieu de rencontre de tous les Russes qui sont arrivés ici après la Révolution, à partir des années 20. C'était le seul lieu de culte à Paris pendant un certain temps. Si bien que les jours de Pâques, il y avait tout le quartier était submergé de personnes qui étaient là. Et tout le monde connaissait la cathédrale russe et... Ah bon, tous ceux qui venaient ici dans ce quartier à Paris.
Alors, quelle est encore aujourd'hui la signification pour les Russes et aussi pour les Russes qui vivent ici en France et à Paris de ce nouvel an du 13 janvier ?
Oh bah, écoutez, là c'est un petit peu folklorique, il faut quand même bien le dire. Hein. Aujourd'hui, c'est une signification purement civile, hein. Il y a rien de religieux là-dedans. Le nouvel an russe montre aussi que cette histoire de calendrier est importante parce qu'on dit toujours le Noël russe c'est le 7 janvier.
Et oui.
En fait, les orthodoxes russes, comme tous les chrétiens du monde entier, célèbrent Noël le 25 décembre.
Pour eux, le 25 décembre.
La seule question, c'est de savoir quand est le 25 décembre.
c'est ça la question. Vous allez me dire que le 25 décembre est le 7 janvier. On veut bien l'admettre.
C'est le 7 janvier au 19e et au 20e siècle. Mais je signale qu'au 19e, c'était le 6, Et au 22e, ce sera le 8. Nous n'y serons plus là, mais enfin, ce sera bon. Donc, ça change certains siècles, disons, hein, pour être bref, disons.
Ce qui est bien pratique avec ce 13 janvier, c'est que c'est un moyen pour les Occidentaux en général et les Français en particulier de fêter les Russes et la Russie. C'est ce que nous faisons, nous, ici, devant cette cathédrale Saint-Alexandre Nevski de la rue Daru à Paris. Si vous voulez bien nous accorder quelques secondes, Julia, nous allons tout de suite descendre dans l'église basse qui se trouve sous la cathédrale elle-même, une sorte de crypte dont vous allez voir qu'elle est encore plus moscovite que l'architecture extérieure des lieux.
Un extrait sur Europe 1 du Troper à Saint-Alexandre Nevski. C'est un chant traditionnel interprété par le chœur de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski. Justement, c'est là où se trouve Franck Ferrand aujourd'hui. Il nous fait la visite de cet endroit exceptionnel.
Oui, alors là, changement d'ambiance. Vous savez, Julia, j'étais à Moscou il y a un an jour pour jour et j'ai l'impression d'y être de retour. Nous entrons en ce moment même dans cette église basse de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski. Imaginez une salle surbaissée avec de grandes voûtes qui sont avec de très larges arêtes à la russe. Et toutes les voûtes, toutes les arêtes, les murs, tout est couvert de peintures russes. Bonjour Catherine de Vaucorbeil.
Bonjour.
Merci de nous faire découvrir ces lieux extraordinaire. On peut dire que cet endroit-là est peut-être le plus russe de tout l'ensemble de la cathédrale ?
Certainement, et en fait, c'est une grande chance. Il a eu besoin d'être restauré dans les années 50, parce que l'humidité avait fait son travail. Et en fait, dans les années 50, quand on choisit de le restaurer, on s'adresse à un couple de peintres d'icônes hein, qui s'appellent les Benoît, le mari et la femme, et ils vont avoir l'idée géniale de restaurer l'endroit dans l'esprit russe du 16e, 17e siècle. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en Russie, on ne laisse pas un centimètre carré sans peinture. Alors même en bas, partout...
Quand on se promène à Moscou, dans les environs, même les maisons civiles anciennes ont cet aspect. Hein,
voilà, exactement. Ça, il n'y a même pas tellement de différence entre l'architecture civile et l'architecture religieuse, sauf peut-être les motifs iconographiques, bien sûr. Dans une maison, on ne représenterait pas comme ça des médaillons avec des icônes. Et ici, il y a en plus un programme iconographique qui est suivi de bout en bout dans la décoration de la crypte.
Alors nous sommes devant Vladimir et devant la conversion de la Russie au christianisme.
Voilà, c'est une conversion alors pour qui semble un peu tardive.
C'est une grande fresque, hein, je précise.
C'est une grande fresque qui représente la première capitale de la Russie, dont vous savez peut-être que c'est Kiev, donc qui appartient aujourd'hui à l'Ukraine. Voilà, mais à l'époque c'est le cœur, le berceau de la nation russe.
Qui nous a donné une reine de France du reste, voilà. Anne de Kiev.
Anne de Kiev, voilà, une reine de France qui était arrivée en 1051. Alors vous savez que les Russes aiment beaucoup faire cocorico à ce... Enfin, il faut pas vraiment cocorico les Russes, mais à ce propos, tout simplement parce qu'elle savait écrire et que visiblement son mari,
elle était bien la seule,
voilà,
oui.
Henri Ier faisait une croix sur les actes et elle signait déjà avec son nom. Alors en fait, la principauté de Kiev, Vladimir, était un prince païen, et en 985 on avait vu le dernier sacrifice humain qui a eu lieu en Russie. Vous voyez, c'est très tardif, mais il s'était rendu compte, il était un fin politique, que s'il voulait rentrer dans le cœur des nations européennes, il fallait se convertir à une religion peut-être plus d'avenir. Alors il avait procédé à une véritable enquête.
Il a envoyé des émissaires se renseigner des différentes religions. Alors on lui a dit, par exemple, si vous voulez devenir musulman, vous pourrez garder toutes vos femmes. Voilà, ça l'arrangeait bien.
Ça l'arrangeait bien, parce que dans la chronique occidentale, hein, il est connu comme Fornicator Maximus. Je pense qu'il est inutile que je vous le traduise.
Mais en revanche, par contre, il fallait qu'il arrête de boire de l'alcool. Et ça, pour les Russes, c'était un gros problème.
C'est un gros problème. Et la chronique de Nestor, et c'est sérieux, hein, c'est le plus ancien texte écrit russe, dit, Vladimir dit ça, c'est pas possible, car boire, c'est la joie du peuple russe. J'ai envie de rajouter déjà.
Finalement, alors nous passons sur les différentes enquêtes auprès des différentes religions, mais finalement, il va choisir la religion chrétienne, parce qu'à Sainte-Sophie, ses émissaires ont assisté à un sublime office.
Voilà, à Sainte-Sophie, vous savez, c'était célèbre à l'époque.
Donc à Constantinople.
Voilà, à Constantinople, pour les chœurs qui se répondaient. En fait, c'était une église qui était couverte de mosaïques, et avec la lumière des cierges, etc., ça donnait une impression d'or. Et Et l'émissaire qui revient de Constantinople dit à Vladimir, c'est comme si le ciel était descendu sur la terre. Alors, certains purs esprits ont pu dire, ah, mais c'est une conversion esthétique, politique. Et c'est peut-être pas une conversion qui vient du plus profond de lui-même. Mais très rapidement, il a complètement changé sa façon d'être. Et c'est un peu ce qui s'est passé un peu avec Constantin, on peut dire, à l'époque où l'Empire romain d'Occident choisit le christianisme. Et il devient vraiment un prince chrétien à part entière. Et il va renvoyer toutes ses femmes, toutes ses concubines, et il va être le fidèle époux d'une princesse porphyrogénète, c'est-à-dire une princesse née dans la chambre de pourpre. Et il va avoir des enfants avec elle qui seront ses héritiers.
Alors, peu à peu, la Russie va se couvrir, évidemment, d'églises et de monastères chrétiens, avec ces fameuses coupoles extraordinaires. D'où viennent ces bulbes ?
Alors, les bulbes, en fait, c'est quelque chose de pratico-pratique au départ. C'est-à-dire que les Russes, ils n'avaient pas d'art qui leur appartenait en propre quand ils ont reçu la religion chrétienne. Et ils ont reçu les formules architecturales de Constantinople, c'est-à-dire des coupoles hémisphériques. Mais il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour voir qu'au bout de un ou deux hivers russes, avec le poids de la neige, une coupole hémisphérique, elle a tendance un peu à s'affaisser. Donc les églises vont changer et on va faire des coupoles casques d'abord, c'est-à-dire on va rehausser un peu les coupoles hémisphériques et puis après on va arriver à la formule extraordinaire du bulbe. Le bulbe, pourquoi il va séduire les Russes ? Parce qu'il y a une forte symbolique. Si vous regardez, ça ressemble à la flamme d'un cierge. Et on a l'impression quand on voit un bulbe sur une église qu'on a un cierge qui n'arrête pas, comme ça une flamme d'un cierge qui n'arrête pas de monter vers le ciel. Et c'est comme ça que les Russes vont s'attacher au bulbe.
Merci beaucoup de nous donner ces précisions, Catherine de Vaucorbeil. Nous vous retrouvons dans un instant dans cette église basse de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, dans la rue d'Aru, à Paris. C'est une émission spéciale pour le Nouvel An russe, le vieux Nouvel An.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous prenons la direction de la cathédrale russe à Paris, où Franck Ferrand nous attend pour nous faire la visite.
Nous nous retrouvons donc dans cette église basse de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, totalement couverte, dont les voûtes, dont les murs sont couverts de très belles fresques, dans un esprit russe, même si c'est peut-être pas tout à fait de la peinture russe, Catherine de Vaucorbeil.
Voilà, oui, parce qu'on est au XXe siècle, donc il y a une certaine stylisation qui est arrivée. On la voit, par exemple, avec un séraphin magnifique, très stylisé. Mm-hmm. Mais là, vraiment, on a l'impression d'y être. Quand on connaît Sainte-Sophie de Novgorod, mm-hmm. qui est aujourd'hui la plus ancienne église russe, puisque l'Ukraine n'appartient plus à la Russie, c'est une église de 1051 qui n'a pas bougé d'un iota. Et même si vous connaissez
un peu Moscou... On se retourne et c'est sur la voûte en face...
On voit le Kremlin de Moscou. Vous savez que le Kremlin de Moscou, il est reconnaissable partout parce qu'il est en briques et que les murailles sont surmontées de queues d'aronde. Tout simplement parce qu'à l'époque, après les trois...
Les queues d'aronde, c'est-à-dire que les créneaux, en quelque sorte, ont une forme bien spécifique, oui, une sorte de forme en M, on peut dire. Tous ceux qui sont allés visiter le Kremlin à Moscou, qui connaissent tout simplement la Place Rouge, sauront de quoi nous parlons.
Et c'est dû au fait que ça a été fait par des architectes lombards à l'époque du tsar Ivan III. Donc c'est assez amusant de voir sous le ciel de Russie quelque chose qui se pratiquait dans l'Italie du Nord.
Et là, ce Kremlin qui était une véritable citadelle religieuse en quelque sorte, voilà, hein, couverte de bulbes.
Avec toutes les plus grandes églises qui jouent un rôle fondamental dans l'histoire russe et puis aussi dans l'histoire des tsars, puisqu'il y a l'église où ils sont baptisés, l'église où ils sont enterrés, etc. Donc c'est vraiment très très lié à toute l'histoire de la Russie.
Quand on se promène en Russie, et notamment du côté de Saint-Pétersbourg, évidemment, il y a aussi une architecture plus classique, plus européenne, qui est celle de l'époque des tsarines, Elisabeth, Catherine, etc., qui était une architecture quasiment italo-française,
voilà,
on peut dire.
Très, 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 très inspirée, il faut bien le dire, par ce qui se faisait en Europe occidentale. D'ailleurs, ça ne va pas tarder, et ça, on va le comprendre là-haut, quand on visitera là-haut, à générer une sorte de réaction. Mais quand la Russie décide de sortir vraiment avec Pierre le Grand, de se moderniser, je pense que vous connaissez c'est tous cette époque-là, eh bien on va prendre comme modèle des modèles occidentaux et on termine justement dans l'église les fresques avec les églises de Saint-Pétersbourg qui sont fortement influencées par le Panthéon, par le Saint-Pierre de Rome, enfin par les grands modèles de l'architecture occidentale.
Alors vous nous disiez que toute cette crypte avait été décorée par des Benoît. Voilà. Qui exactement
Alors, par les neveux d'un Benoît très célèbre qui était Alexandre Benoît et qui avait collaboré au ballet russe de Diaghilev.
Mmh, bien sûr.
Mais les Benoît, c'est une famille, vous voyez que ça ne se fleure pas tellement russe comme nom, c'est Benoît avec un S au bout, et ce sont des Français qui sont venus en Russie à la fin du XVIIIe siècle.
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai là la notice, si je puis dire, Louis-Jules Benoît travaillait avant la Révolution pour le duc de Montmorency, Et lorsque le duc de Montmorency est parti en exil au moment de la Terreur, comme l'ont fait tant d'aristocrates français, eh bien, Louis-Jules a suivi. Il s'est installé à Saint-Pétersbourg et il est devenu assez rapidement le maître de bouche, entendez, le chef cuisinier de la tsarine mère Maria Fyodorovna, qui était la veuve du tsar Paul Ier. Alors c'est ce Benoît-là, ce Louis-Jules qui s'est marié, il a eu 18 enfants et à la génération suivante, on trouve un certain Louis-Benoît qui avait épousé l'héritière d'une riche famille de commerçants de la ville d'Astrakhan. Ce Louis-Benoît, il avait lui-même un frère, Alexandre Benoît, c'est celui dont vous nous parlez, qui a été effectivement l'un des grands peintres des ballets russes, bien entendu. Ce que j'aimerais préciser, c'est qu'après la Révolution, au départ, il a, bien que monarchiste et conservateur, il a à peu près accepté la Révolution. Il a même travaillé pour le nouveau théâtre révolutionnaire, on appelait ça le théâtre dramatique de Petrograd. Il va faire des décors jusqu'en 1923. Mais au moment où il apprend que Lénine l'aurait pressenti pour les fonctions de commissaire du peuple à la culture, là il se dit que ça va quand même un peu loin. Il rentre avec sa femme à Paris. Et l'on peut donc dire que 130 ans plus tard, ce descendant du premier de Louis-Jules Benoît, eh bien, va à son tour fuir une révolution qui l'aura mène au pays de ses ancêtres.
Voilà, il n'est pas le seul, c'est arrivé à de nombreuses familles. Vous savez, beaucoup de familles françaises sont parties en Russie au moment de l'émigration et quand Napoléon a permis aux émigrés de revenir, leur a dit qu'ils pouvaient revenir, beaucoup se sentaient tellement bien en Russie qu'ils y sont restés. Le duc de Richelieu, celui qui a construit la ville d'Odessa, n'avait aucune envie de revenir. Napoléon a insisté pendant des années pour qu'il accepte de revenir en France. Alors ces gens qui sont restés, ils sont devenus plus russes que russes, parce que quand on regarde les Benoît, ont des alliances avec les plus grandes familles russes, et ils ont vécu un deuxième traumatisme en 1917.
Alors, dans un instant, nous allons bien sûr parler de cette immigration russe, nous allons parler de ce qu'on appelait les Russes blancs, qui ont tellement marqué la vie et la vie culturelle française entre 1917-18 et la dernière guerre mondiale. J'aimerais juste, avant que nous ne quittions ce lieu magique, Catherine de Vaucorbeil, que vous nous parliez de cette iconostase. D'abord, expliquons à nos auditeurs ce qu'est l'iconostase dans une église russe, dans une église orthodoxe.
Dans toute église orthodoxe, en fait, les fidèles n'ont pas accès à la partie où se tient le clergé et à la partie où ont lieu les saints mystères. Vous voyez, c'est pas qu'ils sont exclus, parce qu'on présente souvent ça comme une muraille infranchissable. Pas du tout, parce qu'il y a des portes royales et des portes diaconales qui s'ouvrent à certains moments de l'office, mais au moment les plus solennels de l'office, les fidèles ne sont pas amenés à regarder les saints mystères. Et cette iconostase, elle est toujours décorée d'icônes. Mais les icônes, normalement, par exemple, là, ici, sur les portes royales...
C'est là, très... ça fait pas très icône,
Voilà, parce qu'en fait, on est dans une église du 19e siècle, il faut pas l'oublier. Et donc, ce sont des églises qui ont été peintes à une époque où les Russes n'étaient pas revenus à la pureté de l'icône.
Alors, cette iconostase que nous avons sous les yeux est un vestige, ce que les architectes appellent un remploi, puisqu'on trouvait ce monument de bois, si je puis dire, autrefois rue de Berry, dans ce qui a été la première chapelle orthodoxe des Russes de Paris.
Voilà, parce qu'il y a eu des petites chapelles itinérantes, mais la première vraiment bien installée était rue de Berry. Alors ce qui est très amusant, c'est que nous, la rue de Berry nous semble un quartier chiquissime. À l'époque, ce n'est pas du tout un quartier très recherché, c'est un quartier qui est limite dangereux, parce qu'il est à la limite du bois, et le soir, à la fin des offices, le père Vassiliev, dont on parlera tout à l'heure, se lamente parce qu'il y a les belles de nuit qui commencent à prendre position quand les paroissiens sortent de l'église, ça fait tout de même pas très, très, très chic. Et cette chapelle est surtout trop petite. Et là, on s'en rend parfaitement compte quand on voit la taille de l'iconostase. La chapelle était trop petite pour contenir une communauté russe au 19e siècle qui était très, très importante à Paris.
D'où la construction de cet immense monument que nous visitons en votre compagnie cet après-midi. Nous allons entrer dans quelques instants dans la cathédrale elle-même, donc dans l'église haute qui est juste au-dessus de nos têtes.
Sur Europe 1 de l'Ange Clama à la Plaine de Grâce, interprété toujours par le chœur de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, puisqu'avec Franck aujourd'hui sur Europe 1, nous sommes tous à l'heure russe.
Vous savez, Julien, il n'est pas nécessaire de voyager beaucoup pour se dépayser, puisque nous sommes à quelques centaines de mètres de la rue François 1er seulement, dans la rue Daru, à Paris, tout près de la place des Termes, juste au coin de la salle Pleyel, pour ceux qui connaissent bien Paris. Et je peux vous dire que nous sommes totalement dépaysés dans cette salle paroissiale de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski. Nous avons vraiment l'impression, là, d'être en Russie. C'est le moment, je crois, de rendre hommage à Guy Fontaine, qui m'avait envoyé un message par mail le 14 septembre. Dernier, vous voyez que ça commence à remonter un peu, et il me disait « Puis-je me permettre une suggestion de sujet ? Certes, c'est un peu particulier, mais il y a matière. On vient de fêter le 150e anniversaire de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski. Elle a été le centre d'une vie intense, notamment liée à l'immigration russe. Eh bien, merci beaucoup, Guy, de cette suggestion. Vous voyez que nous l'avons suivi. Nous avons mis le temps, mais nous l'avons suivi. Et nous profitons, bien sûr, de ce 13 janvier, qui est la date du vieux nouvel an russe pour consacrer à la Russie cette page spéciale. Et nous sommes en compagnie d'Alexandre Jevakov qui a écrit il y a 3 ou 4 ans maintenant un très beau livre chez Talendier qui s'appelle « Les Russes Blancs ». Alors d'où vient déjà cette appellation, Alexandre Jevakov ? Pourquoi les Russes Blancs pour désigner tous ces citoyens russes qui affluaient au moment de la révolution bolchevique, qui affluaient en Occident et notamment en France ?
Bonjour, les Russes blancs, naturellement par opposition aux Russes rouges.
Rouge, bien sûr.
Voilà. Le rouge étant la couleur de la gauche, de l'extrême gauche et donc du bolchevisme. Mais avant, culturellement, il ne faut pas oublier que le rouge est la couleur qui, dans la tradition russe, est la couleur de la fête. D'où la place rouge, qui fut rouge avant les bolcheviques.
Et oui, c'est la notion de rouge est associée à la noblesse en Russie. Le coin rouge dans une maison, c'est
celle est associée surtout à la religion, à l'espérance, à la renaissance, d'où l'œuf rouge de Pâques.
On dit Krasnaya.
Krasnaya Plosh, ouais. Voilà. Et les blancs par opposition, en fait, le blanc parce qu'ils ont très vite choisi le ruban blanc de Saint-Georges, qui était la décoration militaire la plus importante, d'où l'appellation des Russes blancs. Mais pour revenir à votre question, dans l'immigration, il y a beaucoup de Russes qui se sont retrouvés sous l'appellation blanche, qui n'étaient pas pour autant monarchistes.
Alors, comme c'est une histoire à laquelle nos auditeurs ne sont pas tous très habitués, je pense qu'il serait bien de préciser qu'ici, dans cette cathédrale, il y a deux histoires en quelque sorte. Il y a une première période avant la révolution russe et puis une deuxième après. De 1861 à 1917, nous sommes quand même bien là en présence d'un véritable foyer culturel russe. C'est un lieu, c'est un peu la cathédrale des Grands-Ducs. Enfin, c'est pas une cathédrale à l'époque,
non,
mais c'est l'église des Grands-Ducs.
À l'époque, c'est l'église des Russes de Paris, des Russes permanents ou des Russes de passage, qui sont effectivement de plus en plus nombreux au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin du 19e siècle. Et ensuite, il y a une rupture avec l'immigration. À partir de 17 et surtout de début des années 20, l'église devient de plus en plus le cœur de l'immigration avec une renaissance religieuse, une renaissance théologique. Et puis, c'est un rendez-vous d'immigration, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ramène le souvenir de la terre russe, de la patrie, qui est éloignée. À cette époque-là, au début des années 20, l'immigration croit encore au retour et donc à la victoire contre les bolcheviques. En 1924, le gouvernement français reconnaît l'URSS, donc on sent déjà que les choses deviennent plus difficiles. Mais encore, jusqu'on peut
on
dire...
On veut encore y croire.
On peut y croire jusqu'aux années 30 et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est véritablement à partir de la Deuxième Guerre mondiale et de la triomphe soviétique et du rôle de l'URSS et de l'armée rouge dans le triomphe des alliés que les Russes blancs comprennent que... la terre russe telle qu'ils l'ont connue et telle qu'ont connue leurs ancêtres est définitivement perdue.
Alors pardonnez-moi de sacrifier à l'image d'Épinal ou peut-être à une certaine facilité, mais quand on dit russe blanc, on pense tout de suite au grand-duc devenu chauffeur de taxi. Hein,
oui, 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 vous avez à la fois raison et tort. Il n'y a eu aucun grand-duc qui fut chauffeur de taxi pour la simple et bonne raison que beaucoup de grands-ducs ont été fusillés, exécutés, martyrisés par les bolcheviques. Il en restait très très peu. Et de fait, il y a eu relativement peu de chauffeurs de taxi. Symboliquement, ils ont joué un rôle très très important. Dans la communauté russe, ils ont joué également un rôle important, mais ce ne sont que quelques centaines. Il y a eu beaucoup plus de Russes qui ont travaillé aux usines de Renault, de Citroën, dans des usines métallurgiques en Normandie, dans l'Est de la France.
Alors, toute cette population qui travaillait, russe, qui travaillait dans les usines automobiles, s'était installée, c'est ce que vous me disiez avant qu'elle commence l'émission, dans le 15e arrondissement de Paris,
notamment. Oui, par proximité, les usines étaient à Billancourt ou à ou à Boulogne, puisqu'à l'époque les deux communes étaient séparées, ou dans le 15e pour Citroën, d'où cette localisation dans le 15e de beaucoup de Russes, de beaucoup de magasins russes, de beaucoup de restaurants et d'églises russes, puisque là, en dehors de la rue d'Arru, au fur et à mesure que l'immigration prend de l'importance, eh bien, on crée des paroisses dans le 15e, on crée des paroisses Saint-Serge dans le 19e, et on crée des paroisses en dehors de Paris, et puis naturellement en province.
Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que cette catastrophe pour toute l'élite russe qu'a pu être la révolution bolchevique s'est traduite en même temps par une sorte d'efflorescence de la culture russe en Occident, oui. Parce que je pense à Paris notamment, mais d'une façon plus générale à la France, dans les années 20 et surtout dans les années 30, il y a une sorte d'imprégnation russe. On se met à manger à la russe, à parler, enfin, il y a une vraie... La culture de toute cette immigration blanche, en quelque sorte, va imprégner notamment nos élites.
Oui, vous avez raison. Il y a eu déjà un premier temps fort avant la guerre avec l'alliance franco-russe et puis avec les ballets de Diaghilev. Mais effectivement, après la catastrophe de la Révolution, il y a effectivement une mode. C'est le cas de le dire dans la mode féminine, puisqu'on trouve énormément d'influences russes, dont l'une des propagatrices est Mademoiselle Chanel, bien entendu. Mais aussi, on peut également citer le prince Youssoupov qui, avec son épouse Irène, qui était donc une des nièces de Nicolas II, crée une maison russe. Et il y a beaucoup de modes.
Qui sont les rois du tout Paris.
Qui sont les rois du tout Paris. Et beaucoup d'aristocrates russes, de jeunes femmes ou de jeunes filles russes, dont le port altier était très apprécié et l'élégance également, ont effectivement œuvré dans ces maisons, même si certaines maisons étaient supposées être de mauvaise vie pour ces jeunes filles de l'aristocratie qui avaient été élevées pour faire autre chose dans la vie que pour être mannequin.
Alors Alexandre Jevakov, votre livre « Les Russes blancs » est disponible chez Talendier. Vous allez nous accompagner maintenant dans la cathédrale elle-même. Je tiens à préciser à nos auditeurs que tout ça est filmé aujourd'hui. Et que donc, aussitôt après l'émission, il sera possible, en se rendant simplement sur le site internet d'Europe 1, www.europe1.fr, de voir les images de ce que nous voyons nous-mêmes et de ce dont nous bénéficions ici, sur place, rue d'Arru.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Franck, qui se trouve au cœur de la cathédrale russe à Paris, un décor digne du 7e art.
Oui, Julia, s'il y a, comme moi, des amoureux du cinéma d'Eisenstein qui nous écoutent aujourd'hui, ils seront d'emblée dans l'atmosphère. Imaginez de très belles lumières, imaginez des vapeurs, enfin des fumées d'encens. Nous sommes dans l'intérieur même de cette cathédrale Saint-Alexandre Nevski de la rue d'Arru à Paris. Nous avons l'impression de nous être tout simplement transportés en Russie. Il y a une chose qu'il faut que vous nous expliquiez, Alexandre Jevakov. C'est toujours un peu compliqué. On parle, bien sûr, à partir de la Révolution, d'une église russe hors frontières. Or, me disiez-vous, cette cathédrale dans laquelle nous nous trouvons n'a jamais dépendu de cette église russe hors frontières.
Non, effectivement, l'église orthodoxe, en 1917, rétablit le patriarcat de Moscou, qui avait supprimé Pierre le Grand, qui avait fait de l'église une institution... en quelque sorte administrative,
avec presque civile, oui,
voilà, avec un ministère et un ministre qui s'appelait le procureur du Saint-Synode.
Puis finalement, Pierre le Grand avait tout mis en coupe réglée, même l'Église.
Il avait en quelque sorte mis en place une espèce de verticale du pouvoir, pour utiliser un terme contemporain. Et donc, le patriarcat de Moscou se rétablit en quelque sorte au printemps 17, entre la révolution de février 17 et le coup d'État bolchevique d'octobre. Et naturellement, éclate à ce moment-là la guerre civile. Et donc, les Blancs, les Russes blancs dont on parlait tout à l'heure, se rendent compte qu'il y a un problème à la fois pour leur pratique et puis pour le patriarcat. Et donc au fur et à mesure qu'ils quittent la Russie, se pose encore plus crûment le problème, d'où l'apparition de cette église hors les frontières qui considère que temporairement elle ne peut pas être rattachée à Moscou. C'est une église qui prend assez rapidement une tournure assez politisée,
un peu extrémiste même, disons
effectivement, elle n'est pas très très progressiste pour utiliser un autre terme, voilà. Et donc elle canonise très très vite la famille impériale martyrisée à Ekaterinbourg, et puis elle prend des positions politiques, voilà. Et ensuite, pour revenir à Paris et à l'église Saint-Alexandre Nevski, Monseigneur Eloge, qui donc est le responsable de la paroisse, qui a été député monarchiste, qui a pris une évolution par rapport à cette période-là, essaye de régler le problème, c'est-à-dire qu'il essaye de négocier un peu avec Moscou. Il se rend compte au fur et à mesure que les années passent et que le pouvoir soviétique devient de plus en plus anti-religieux athée, que c'est difficile. Et donc, à la fin des années 20, il demande au patriarcat de Constantinople d'être rattaché à ce patriarcat, ce qui est accepté. accepté, et ce qui fait que la rue d'Aru donc est aujourd'hui rattachée au patriarcat de Constantinople.
Actuellement encore. Il n'y a pas de retour à Moscou, si je puis dire.
Il y a eu un certain nombre d'hypothèses, des étapes, des épisodes, mais l'église de la rue d'Aru, la cathédrale, puisque c'est une cathédrale depuis les années 60, est bien rattachée au patriarcat de Constantinople.
Est-ce qu'on peut dire, Catherine de Vaucorbeil, est-ce qu'on peut dire que cette église est tout à fait typique, est tout à fait archétypale de ce qu'on peut trouver en Russie, ou est-ce qu'elle présente des particularités ?
Elle est tout à fait typique de ce qu'on trouve en Russie dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une tendance à copier l'Occident à partir du règne de Pierre le Grand. Et en fait, les Russes vont se reprendre 150 ans après, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ils vont opérer en matière artistique un véritable retour aux sources nationales. Alors, on va envoyer des étudiants en histoire de l'art copier les monuments byzantins. Ils vont revenir avec des carnets de croquis. Et par exemple, en ce qui concerne cette cathédrale qui a été, vous l'avez dit tout à l'heure, construite en 1861. On est en plein dans cette période de retour aux sources nationales. Eh bien, ils vont faire une sorte de copier-coller de ce qu'ils ont vu à Sainte-Sophie de Constantinople.
C'est une architecture en croix grecque.
Voilà, parce que c'est vraiment repris. C'est très, vraiment, quand on dit cette église est byzantino-moscovite, ça fait rire ce terme un peu barbare. En fait, elle est moscovite à l'extérieur et byzantine à l'intérieur. Et là, on comprend mieux. Et vous voyez, c'est un plan grec à croix centrée. C'est-à-dire que vous n'avez pas une grande nef comme dans les églises catholiques d'Occident, mais plutôt un plan plus ramassé avec les bras de la croix que vous voyez très très bien dans le transept et qui sont à peu près de la même taille que le reste, que les deux autres bras.
Les teintes dominantes sont porphyre, vert sombre, et puis bien sûr des reflets d'or que font chanter d'énormes suspensions en fait, dorées elles-mêmes.
Ouais. Et c'est toujours cette appétence des Russes pour tout ce qui est la couleur pourpre. Vous avez même, comme elle a été restaurée récemment, on s'en rend bien compte, les couleurs de l'arc-en-ciel que vous voyez là-bas. Vous voyez, vous avez vraiment comme des arc-en-ciel de couleurs et on les voit très très bien depuis que l'église a été restaurée. Donc tout ça, c'est pour vraiment évoquer la mère, si vous voulez, qui est Byzance, la mère de l'église russe, c'est Byzance.
Une magie, une solennité propre à toutes ces églises orthodoxes russes, évidemment. Et puis quelques très belles œuvres d'art.
Voilà. Alors, on avait la chance, au moment du chantier de l'église Saint-Alexandre Nevski, d'avoir un excellent peintre qui vivait à l'année à Paris. Alors, il s'appelait Alexandre Bogolyubov. Ce qui est assez amusant, son nom est prédestiné, parce que Bogolyubov, ça veut dire celui qui aime Dieu. Alors, on n'est pas plus prédestiné à travailler au chantier d'une église. Et Bogolyubov, vous vous en rendez peut-être compte, c'est un peintre de marine. Ce n'est pas du tout un peintre d'icône. C'est l'élève du plus grand peintre de marine russe qui s'appelle Ivan Ivazovski, C'est un peintre très doué. Il vient en France. Il aime tellement le climat à Paris qu'il prétexte qu'il est un peu faible des bronches pour ne jamais retourner en Russie. Et il va travailler dans l'atelier d'Isabé. Donc vous voyez, ça vous montre tout de même son niveau. Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit que c'est un peintre de marine parce qu'il a choisi un format très surprenant qui est un format très très large. Vous savez, les peintres de marine, ils faisaient de la peinture grand angle puisqu'on n'avait pas la photographie à l'époque. Et donc il va choisir en plus de représenter, alors c'est pas très joli ce que je vais dire, des sujets aquatique de la prédication du Christ. Donc vous avez le Christ qui marche sur les flots ou le Christ qui apaise la tempête. Vous le lisez un peu comme vous voulez. Il a mis les deux épisodes un peu ensemble. Et puis là-bas, le Christ qui va chercher ses apôtres au bord du lac de Tibériade. Mais vous voyez qu'à dessein, il a choisi de représenter l'élément aquatique.
Ce sont de grandes toiles qui épousent l'abside, ce qui les rend concaves. Et ça, elles font partie évidemment intégrante de ce décor où figurent beaucoup d'icônes. Quand je dis beaucoup, moins que ce qu'on peut voir dans certaines églises en Russie tout de même.
Oui, tout à fait. Mais les icônes ici elles ont toute une histoire. Toutes les icônes, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, ont toute une histoire. Et puis, il y a des icônes qui sont arrivées un peu par hasard. Et ce sont des histoires absolument merveilleuses, comme l'icône qu'on va voir, qui est une icône qui vient du Kremlin. Cette icône, elle avait été visiblement, il faut le dire, volée.
Elle est en train de traverser la cathédrale.
Elle a été volée par un soldat de Napoléon pendant l'occupation de Moscou en 1812. Et en fait, on en avait perdu la trace. Elle était dans un des nombreux sanctuaires du Kremlin. Et c'est une icône extraordinaire qui représente la mère de Dieu Fyodorovskaya et qui était du XVIIIe siècle. Vous savez, comme les Russes, dans les icônes, ils aiment énormément, quand ils vénèrent particulièrement une icône, la recouvrir d'un revêtement métallique. Alors, celle-ci était toute recouverte de vermeil. Et elle est arrivée ici en 1940, au moment de l'Exode. C'est un personnage de la famille des banquiers Meunier qui s'est présenté à l'église au moment où tous les Parisiens quittaient Paris. Il est venu voir le marguillier, il lui a dit « Voilà, moi j'ai ça dans mes collections artistiques. Je pense qu'avec ce qui va nous arriver, elle risque d'être perdue. Je pense que sa place est ici. » Et c'est comme ça que cette icône dont on avait perdu la trace depuis l'époque de Napoléon est revenue tout naturellement dans une église russe. En 1940.
Nous nous retrouvons dans un instant pour revivre les très riches heures de cette cathédrale Saint-Alexandre Nevski.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Au cœur précisément de la cathédrale russe à Paris pour quelques minutes encore, Franck.
Je me rends compte, et c'est terrible, qu'il nous reste très peu de temps et encore énormément de choses à raconter et à voir. Nous sommes donc, pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route, nous sommes à la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, dans cette église russe de Paris. Nous avons l'impression d'être littéralement en Russie, dans ces lieux qui ont connu des moments extraordinaires. Alors, il y a eu des... Bon, on pense toujours, évidemment, on pense toujours au mariage de Picasso, par exemple, Catherine de Vaucorbeil.
Alors, il y a eu le mariage de Picasso avec une danseuse des ballets russes.
C'est en 1918,
première... Oui, 1918, au mois de juillet, Olga Koklova. Et les témoins sont tout de même des gens extraordinaires. C'est Jean Cocteau, Max Jacob. Et Jean Cocteau note dans son journal le soir, on ne l'avait pas prévenu que pendant un mariage orthodoxe, on doit porter à bout de bras une couronne au-dessus de la tête de la mariée. Il a trouvé ça un peu difficile, mais il a dit, c'était tellement magnifique, j'ai eu l'impression de jouer Boris Godounov. Donc, vous voyez Cocteau qui est tout de même, comme il a été heureux d'être témoin du mariage de Picasso et d'Olga.
Tous les amoureux de la Russie connaissent évidemment l'œuvre d'Henri Troya, qui s'est marié ici, voilà. Lui aussi, juste avant la guerre.
Il s'est marié en 1938, en fait, ouais. Et ça a été son premier mariage, sa première épouse, parce qu'après, il s'est remarié dans les années 50, et pas ici. Mais c'est tout de même un moment assez extraordinaire. Et puis, au moment de la fin de sa vie, eh bien, il était académicien, et il a été enterré ici, avec toute l'Académie française, dont Madame Carrère-Dancos, sa secrétaire...
Qui connaît bien la Russie,
voilà,
aussi, n'est-ce pas?
Voilà, c'était d'autant plus extraordinaire comme moment, l'enterrement d'Henri Troya.
Il y a justement là une magnifique icône. Voilà. Icône de l'Ascension.
De l'Ascension, alors très 19e siècle comme icône. Vous voyez, c'est pas la pureté iconique des premiers temps de la peinture d'icônes, mais qui représente la fête de l'Ascension.
C'est là qu'on regretterait presque, si je puis dire, de faire de la radio, parce que c'est tellement beau tout ça, on aimerait pouvoir en faire profiter les auditeurs. C'est possible pour tous ceux qui veulent aller sur le site internet d'Europe 1. Vous aurez juste après cette émission un reportage en quelque sorte de l'émission elle-même, où vous aurez en image tout ce que nous voyons et tout ce que nous vous décrivons ici. Parlez-nous de la visite de Nicolas II en 1896.
Alors là, c'est une visite extraordinaire. Vous savez, c'est vraiment le point d'orgue de l'amitié franco-russe. Les Parisiens sont fous de joie. Il faut dire que 3 ans auparavant, ils ont accueilli l'escadre de la Méditerranée. Les marins russes ont été accueillis, mais vraiment comme des personnages extraordinaires. Et là, on a une chance extraordinaire. Nicolas II et sa toute jeune épouse arrivent. Et les Parisiens sont fous de joie. Vous savez que le point d'orgue de cette visite, ça a été la pose de la première pierre du pont Alexandre III. Mais avant de poser la première pierre du pont Alexandre III, le tsar et la tsarine sont venus ici, rue d'Aruche, pour un office, un tédéum.
Ils sont un peu encore ici, si je puis dire, puisqu'il y a là une sorte de monument à leur mémoire. Hein, un
qui
monument.
A été élevé alors, grâce aux paroissiens. Alors là, on replonge dans ces années dont parlait M. Jevakov tout à l'heure, les Russes blancs. Eh bien, c'est une croix mémoriale qui a été élevée exactement 20 ans après le martyr dans la maison Ipatiev de la famille impériale. Le 17 juillet 1938, les paroissiens inaugurent cette croix mémoriale. Et comme on est dans une église orthodoxe, vous voyez qu'on ne représente pas l'empereur, mais on représente son saint patron au centre, Saint Nicolas. Sur les bras de la croix, vous avez Saint Alexandra, Saint Alexis, le saint patron du tsarevitch, et en dessous, les 4 grandes duchesses.
Otma.
Les 4.
Olga, Tatiana, Maria et Anastasia. Il y a encore, Michel Sologoub, il y a encore des cérémonies de mémorielles devant ce monument ou devant quelques autres?
Oui, bien sûr. Tous les ans, on célèbre, enfin, on marque en tout cas, notamment le décès du père, du tsar, mais maintenant qui a été, comme vous le savez, canonisé. Donc, c'est plutôt un tédéum plutôt qu'une cérémonie.
Il y a encore des visites officielles, bien entendu. Il y a un certain nombre de vous recevez ici. Régulièrement des hôtes de marque.
On reçoit notamment des prélats venant d'autres églises orthodoxes, de patriarches notamment, quand ils viennent, notamment le patriarche œcuménique. Et puis, bien sûr, toutes les prélats catholiques, les amis, les frères dans la foi en général, qui sont reçus ici, oui, bien sûr.
Et puis il y a des icônes régimentaires aussi, il y en a un certain nombre.
Alors, oui, ça c'est vraiment ce qui a beaucoup changé. L'Église n'a pas changé presque d'un iota depuis 150 ans, sauf justement quand on regarde de plus près ces icônes qui y ont été installées. Et ça c'est vraiment très, très touchant. C'est-à-dire que vous aviez des régiments qui ont quitté la mère patrie après la guerre civile. Certains régiments ont pu emporter leurs icônes, certains n'ont pas pu, et ils ont fait refaire pour certains leurs icônes en émigration. Ici, vous avez un régiment que tout le monde connaît au moins de nom, c'est le Préobrajensky, un régiment qui a été créé par Pierre le Grand. Donc on retrouve le saint patron de Pierre le Grand, Saint-Pierre, et le saint patron du dernier colonel du régiment, enfin honoraire, Nicolas II, donc Saint-Nicolas. Et vous voyez, ce sont des icônes quelquefois qui se présentent sous forme de triptyque, mais quelquefois aussi de façon plus originale, on a l'icône de la marine russe qui se présente sous forme d'une superbe maquette de bateau. Et chaque voile du bateau, c'est une icône.
Supporte une icône.
Donc c'est assez original.
Il aurait fallu que nous parlions de ce qu'est l'icône. Évidemment, dans toute la liturgie russe orthodoxe, l'icône joue un rôle très particulier. Ça peut être pour une autre fois, car je crains bien qu'il ne faille nous quitter. Vous avez compris que cette émission peut être prolongée grâce au site internet d'Europe 1 et grâce à un certain nombre de lectures. J'ai dans les mains l'ouvrage de Nicolas Ross, Saint-Alexandre Nevski, centre spirituel de l'émigration russe entre 1918 et 1939, c'est paru aux éditions des Sirtes. Et puis, je vous redonne le titre de l'ouvrage d'Alexandre Jevakov, Les Russes Blancs, c'est aux éditions Talendier, un moyen de se replonger dans toute une époque, j'allais dire dans une fantasmagorie, en tout cas dans un certain imaginaire. On a très envie en ce jour de nouvelles en russe de faire des agapes russes, évidemment.
Pas de blini.
Dites-moi
blini,
pourquoi.
C'est plutôt la semaine du carnaval, c'est la semaine qui précède le carême.
Donc vodka, chaque chose en son temps.
Caviar, mais pas de blini.
De la vodka et du caviar, ça nous conviendra. Merci beaucoup à tous de nous avoir si divinement reçus dans ces lieux magiques de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski de la rue Daru à Paris. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça va être une émission qui va vous plaire, je pense, à vous tous, chers auditeurs, puisque grâce à nos experts, nous allons vous permettre de faire des économies. Mais quand je dis des économies, ce sont des vrais, hein, c'est pas des petits centimes. Des économies sur tout votre budget habillement, sur tout votre budget alimentation, voire le transport si on a le temps. Mais ne vous inquiétez pas, si on n'arrive pas, on se rattrapera vendredi prochain avec Ignace Manca de Dossier Familial et Isabelle Quenin.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1? Alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.